BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue dans BFM Patrimoine. On vous accueille aujourd'hui comme chaque jour pour deux heures d'expertise qui vous permettent de gérer au mieux votre patrimoine. Mais on commence tout de suite par un survol de l'actualité économique ce matin avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younsi.
Le bras de fer se poursuit aujourd'hui sur la réforme des retraites avec cette 10e journée de mobilisation. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, appelle ce matin à une médiation pour trouver une voie de sortie à la crise sociale. Du côté des manifestations, 150 rassemblements sont prévus partout en France. Des manifestations qui ont un impact sur l'activité des commerces selon les données de l'Alliance du Commerce, avec une baisse de chiffre d'affaires de quasiment 20% en moyenne ces journées-là, voire 30% à Marseille ou à Toulouse. Nous en parlerons ce soir avec Olivia Grégoire, la ministre chargée des PME du commerce et du tourisme. Elle sera l'invitée de la grande interview d'Edwige Chevrillon. Ce sera à 19h30. Les comptes publics moins dégradés que prévu en 2022. C'est confirmé par l'INSEE qui vient d'en publier les chiffres clés. Le déficit public est finalement sous le seuil des 5%. Il recule à 4,7% du PIB contre 6,5% en 2021. Et puis la dette est ramenée à 111,6% du PIB après quasiment 113% l'année précédente. Tout cela grâce à de meilleures rentrées fiscales que prévu. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a salué ce matin la résilience de l'économie française. Mais la dette et le déficit public restent très supérieure à leur niveau d'avant-crise sanitaire en 2019. La France reste parmi les nations les plus innovantes d'après le classement 2022 de l'Office européen des brevets. Le pays se classe deuxième en Europe derrière l'Allemagne avec 10 900 dossiers déposés, un chiffre en progression de 2%, cinquième pays dans le monde. En Europe, ces demandes de brevets ont battu des records l'an dernier. Les secteurs les plus dynamiques sont les technologies du numérique et les énergies propres. C'est aujourd'hui que l'accord sur la fin de la vente des véhicules thermiques pour 2035 doit être formellement adopté à Bruxelles. Après 3 semaines de blocage, la Commission européenne et l'Allemagne ont trouvé un compromis en ouvrant la porte aux carburants de synthèse. Ce texte est donc à l'ordre du jour de la réunion des ministres européens de l'énergie.
Merci beaucoup, Faiza Younsi, que l'on retrouve dans une heure pour suivre cette actualité. Nous, dans l'intervalle, on va vous donner un maximum de conseils et on commence en nous connectant au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Pour retrouver Antoine Larry-Gaudry qui nous attend chaque matin pour lire cette première heure de cotation sur les marchés. Quelle est l'ambiance ce matin, Antoine ?
Positive, hein, avec un CAC 40 qui gagne encore des points, qui nous fait à peu près la même séance qu'hier à la même heure, c'est-à-dire que on gagne du terrain, plus 0,51%, et on se fortifie au-delà des 7100 points, 7114 points sur le CAC 40, mais on a du mal à passer la seconde. Hein. On sent que on arrive bien en tête, hein. On a ouvert sur une hausse supérieure à 1%, et puis on réduit un petit peu la cadence. Alors, plusieurs signaux quand même plaident en faveur d'une baisse du stress sur le marché. Ça, c'est important. Alors, déjà des volumes un petit peu moins importants, on est sous les 400 millions d'euros d'actions négociées. Des indicateurs de volatilité qui se calment, ça c'est important. Le VIX américain en particulier retrouve ses niveaux de début de mois, hein, du côté des 20 points. On a quand même un net retour au calme à ce niveau-là. On voit des investisseurs qui ont tendance à se défaire de leur valeur refuge. On a vu les taux sur les marchés obligataires 10 ans grimper un petit peu. Enfin, un petit peu une dizaine de points de base, hein, en 24 heures. Mais ça montre que les investisseurs semblent vendre un petit peu leurs obligations souveraines. Le dollar aussi qui baisse. L'euro, du coup, remonte au-delà d'un 0,8. Et on a même l'or, l'once d'or fin, qui redescend du côté des 1960 $. Vous vous souvenez, on avait tapé et même dépassé les 2000 $, hein, ces derniers jours. Donc, on voit que tous les indicateurs de flight to quality, de recherche des valeurs refuges et des valeurs défensives semblent se calmer vraiment sur les marchés. Et ça, c'est un signe quand même très, très encourageant. Malgré tout, on le voit, on a des marchés qui se montrent hésitants, même si la tendance reste positive. Alors, la plus forte hausse du CAC 40, elle est pour Total Energy, qui gagne 2,13% à 53,24€, parce qu'avec tout ça, on a un baril de Brent qui reprend sacrément du terrain depuis le début de la semaine. On est à nouveau du côté des 78 $ pour le baril de mer du Nord, 77,80 à l'instant. C'est même pas tant sur le baril de brut léger américain qui repasse le cap des 73 dollars, donc ça permet à Total Energy de signer la plus forte hausse du CAC 40. Le redressement du secteur bancaire se poursuit, mais à petits pas, encore une fois, comme hier. C'est pas non plus le retour d'une euphorie. BNP Paribas qui gagne 1,2%, 52,41 €. On est loin de rattraper tout le terrain perdu ces derniers jours. À noter quand même les principales baisses du moment. On a Téléperformance qui recule d'1,9% à 213,30 €. STMicro moins 1,6% à 45,10 €. Ben oui, on se défait des obligations, ça fait monter les taux et donc les valeurs de croissance mécaniquement en pâtissent. La techno, Dassault Systèmes recule de 0,59% à 36,79 €. Et puis le luxe également. Affilié au secteur du luxe, on a quand même ici Lussotica qui perd 0,3% à 162,10 €. Et Pernod Ricard moins 0,68% à 203,50 €. En baisse, à noter quand même Orpea qui subit encore une séance difficile. 2,04 €, on est en baisse de 2,9%. Ubisoft moins 2,6 €, 21,75 €. Et puis leader du SBF 120, c'est CGG dans l'énergie qui gagne 2,6% à 67 centimes. Le CAC donc plus 0,44, 7109 points, marché plus calme que ces derniers jours. L'euro 1 dollar 0,823 Cédric.
Antoine Larigauderie, chaque matin pour vivre au rythme de ce marché action, une heure après l'ouverture et nous on continue à explorer la côte parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Et on accueille Marc-Antoine Barbet. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, gérant chez MCA Finance. Et vous nous proposez ce matin de découvrir Biocorp. Est-ce qu'on peut commencer par un petit portrait, présenter le groupe ?
Oui, alors Biocorp, donc, c'est une medtech française basée en Auvergne. Elle est dirigée par son fondateur et premier actionnaire Jacques Gardette. La société développe des dispositifs médicaux connectés, notamment dans le traitement du diabète avec son capteur Malia, qui transforme les crayons insuline jetables en objets connectés.
Alors justement, que représente ce marché du diabète ?
Alors, il faut savoir, Cédric, qu'il y a plus de 60 millions de patients dans le monde qui utilisent un stylo injecteur et qu'on estime qu'environ 50% des patients ne prennent pas l'insuline correctement. Une mauvaise gestion peut alors entraîner des complications comme de l'hypo ou de l'hyperglycémie et à plus long terme, des problèmes cardiovasculaires. Biocorp répond alors à cette problématique, puisqu'avec leur capteur magnétique, les patients vont récupérer de l'information sur la dose sélectionnée, l'heure et la date d'injection. Ces informations vont ensuite être envoyées par Bluetooth sur une application mobile. Le patient va ainsi avoir sa glycémie et donc optimiser le dosage nécessaire.
Bon, voilà donc ce marché, ils interviennent où en France uniquement, en Europe, aux États-Unis
Alors, c'est un marché mondial et justement, la société a obtenu l'autorisation en fin d'année dernière de la FDA, qui est l'agence de médicaments américaine, qui va lui permettre d'adresser le plus gros marché mondial, puisque le marché américain représente un peu plus de 30 millions de patients. D'ailleurs, cette commercialisation outre-Atlantique va être positive pour la société, puisque leurs partenaires, à savoir Novo Nordisk et Sanofi, vont pouvoir commercialiser cette technologie à grande échelle. D'ailleurs, pour faire face à cette demande, l'entreprise est d'ailleurs en phase d'extension de son usine, pour augmenter ses capacités de production. Et en plus du diabète, il faut noter que Biocorp a d'autres projets à plus long terme sur d'autres segments, notamment la fertilité féminine ou encore l'hémophilie, preuve de sa capacité d'innovation.
Voilà donc cette petite présentation. Après, il faut aussi regarder un petit peu le parcours du titre, sa valorisation. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Oui, alors effectivement, selon nous, Biocorp, ça offre des perspectives plutôt intéressantes puisque nous attendons pour 2023 une augmentation du chiffre d'affaires d'un peu plus de 25% à 15 millions d'euros. Et ces revenus devraient d'ailleurs très fortement accélérer par la suite avec le lancement aux États-Unis. D'ailleurs, sans ajouter de primes spéculatives, au vu de la forte croissance évoquée, en valorisant 5 fois le chiffre d'affaires 2025, on arrive à un objectif de cours aux alentours de 34 €, soit un potentiel, Cédric, d'un peu plus de 50%.
Oui, parce qu'on cote 22,80 ce matin, en hausse de 2,7%. Éclairage proposé ce matin par Marc-Antoine Barbet pour MCA Finance sur ce dossier. Biocorp, donc, recommandation d'achat et objectif de cours, 34 €. Merci beaucoup Marc-Antoine. Bonne séance sur le marché. Le CAC 40 qui reste pour le moment au-dessus des 7100 points, 7116 points, il progresse de 0,54%.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et c'est Irina Topasseri qui nous accompagne ce matin. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
En ligne avec nous depuis AXA IM, l'agenda de ce mardi a comme dominante la publication du Conference Board. On est aux États-Unis. Qu'attendre de cet indicateur, Irina ?
effectivement, c'est une mesure de confiance des ménages américains. Alors, il y en a deux, on en parle souvent. Donc, il y a le Conference Board et le University of Michigan. Donc, c'est un peu les deux facettes un peu de la confiance des ménages. Notre Conference Board, il est plutôt focalisé, on va dire, sur les conditions du marché du travail, hein, dans les questions qu'il pose aux ménages. Et l'enquête de l'Université de Michigan est plutôt sur les perceptions des ménages sur leurs conditions financières. Bien sûr, évidemment, les deux sont à peu près interliés. Mais enfin, bon, on peut avoir des résultats un peu différents. Actuellement, j'ai envie de dire, les deux mesures sont plutôt faibles depuis la pandémie. Et c'est un peu étonnant quand on les met en face du niveau de la consommation, dont on parle souvent que c'est un niveau extrêmement bon, hein, aux États-Unis. C'est probablement des réactions des ménages face aux remontées des prix du gasoil, des prix des denrées alimentaires, comme on l'a vu à travers le monde. Et ceci malgré effectivement cette épargne excédentaire. Elle-même, peut-être actuellement, elle n'est peut-être plus que concentrée dans un pourcentage assez faible des ménages, hein. Donc, et en plus, la situation du marché du travail, on le voit au mois le mois, elle est plutôt meilleure qu'attendue. Donc, somme toute, une enquête, il faut voir aussi quand est-ce qu'elle a été menée par rapport aux dernières problématiques du système bancaire américain. Je pense que voilà, il y a des chances à ce que cet indicateur fasse du surplace, hein, parce qu'en fait, la composante des anticipations avait déjà baissé au mois de février.
Ouais. Et si on essaie d'élargir un petit peu notre regard et de constater ou de prendre le pouls de l'économie américaine plus largement, qu'est-ce qu'on peut se dire ce matin, Irina?
Je pense que le marché, tout le monde se pose la question et tout le monde analyse et chacun a son avis sur l'état de l'économie américaine, surtout à venir. Donc cette récession qui viendrait ou pas, on a eu donc la semaine dernière la Réserve fédérale qui a publié ses prévisions, donc ces dot plots comme on dit, où on a vu une légère révision à la baisse de la croissance pour cette année de 0,5 à 0,4 et surtout une plus forte baisse de ses anticipations quant à la croissance en 2024 de 1,6 à 1,2. Donc je pense que ce qui est plus intéressant de voir, parce qu'il y a le marché se dit que la Fed n'est pas encore prête à entrevoir une récession. Cela dit, si on regarde par rapport à septembre 2022, la croissance cumulée du PIB se situait sur ces deux prochaines années 2023-2024 à 2,9%. Elle n'est aujourd'hui plus qu'à 1,6%. Donc on voit très bien que, même si peut-être le mot récession n'arrive pas tout à fait clairement à indiquer, on voit bien que la Réserve fédérale comprend bien que pour calmer, si vous voulez, ce choc inflationniste aujourd'hui, il faudra un certain sacrifice en termes de croissance et d'emploi. Et aujourd'hui, ce resserrement des conditions financières, et notamment qui vont se traduire par des problématiques d'octroi du crédit dans l'économie américaine qui sont liées justement à ces tensions sur le système bancaire, est un phénomène bien sûr douloureux, mais probablement nécessaire pour aider la Réserve fédérale dans cette désinflation. Certes, la Fed ne veut pas un credit crunch, hein, donc elle doit éviter à tout prix un risque du système bancaire, hein, de défaillance du système bancaire, ce qu'elle a fait d'ailleurs de manière très rapide. On voit ici le passage de la crise de la grande crise financière, donc la rapidité des outils mis en place, etc. Elle est clairement là, mais probablement nous-mêmes, on a ajusté en face de ça nos attentes de remontée de taux à 5,25, plus qu'une hausse probable de la Réserve fédérale.
Mais je pense que là où les...
ouais, oui, c'est ça. Par contre, là où tout le monde va débattre, c'est est-ce que la Réserve fédérale a besoin de baisser les taux derrière.
Et, oui,
et pour notre avis, nous pensons quand même que la barre est haute, hein, pour qu'elle baisse ses taux, et qu'en fait, justement, elle sera attentive, elle laissera justement cette pression sur les emprunts à l'économie américaine se mettre en place, parce qu'elle est nécessaire à l'aider à atteindre son objectif d'inflation.
L'économie américaine et ce Conference Board qui tombera cet après-midi, décrypté par Irina Topassiri. Merci beaucoup Irina d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. Le marché parisien qui reste en hausse, juste au-dessus des 7000 points, 7116 points pour le CAC.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
La vie IMO et Marie-Cœur de Roy, bonjour.
Bonjour Cédric.
Petite surprise du matin.
Peut-être pas surprise.
Info du matin, voilà, taux d'usure.
Eh ben oui, c'est tous les mois maintenant le taux d'usure. Donc ça y est, le nouveau taux d'usure est tombé. Je vous rappelle qu'on était à 4% pour les crédits au-delà de 20 ans. Le mois de mars qui se termine. Et donc pour le mois d'avril, on passe à 4,24% précisément. Cécile Roquelaure avait vu juste hier, puisqu'elle nous disait que ce serait entre 15 et 25 points. Bon ben voilà, on y est. est, hein, on est à 4,24. Alors techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crédits, les taux d'intérêt de vos crédits sur 20 ans et plus pourront aller potentiellement jusqu'à 3,70, 3,74. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3,20 en moyenne sur ce qu'on vous propose dans les banques. Donc a priori,
pour tous ceux qui sont un peu borderline, il faut foncer à sa banque. On a 10 jours.
Non. Alors du coup, justement, ça va être le sujet qui va se poser. Juste pour revenir quand même sur les chiffres, sachez que sur les crédits au-delà de 10 ans, on est au-delà maintenant de 4%. Et ça, c'est quelque chose, c'est Sandrine Allonier chez Vous Financez qui me l'écrivait il y a 5 minutes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 2015. Donc quand même, il se passe quelque chose au niveau de la poursuite de la hausse du taux d'usure et donc des taux d'intérêt. Alors après, pour le coup, est-ce qu'il faut se précipiter? On n'est plus du tout dans la même configuration que ce qu'on avait connu à l'automne. Donc il n'y a plus vraiment de blocage du taux d'usure. Le taux d'usure n'est plus vraiment un problème aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on emprunte plus facilement, car ce que je crois comprendre auprès des courtiers, c'est qu'ils ont autant de taux de refus qu'avant. Pourquoi? Parce que forcément, le contexte n'est pas plus simple quand même, puisqu'on a des taux d'intérêt qui augmentent, des prix qui certes ont amorcé leur baisse, mais qui n'ont pas complètement baissé, et donc un pouvoir d'achat qui continue de s'éroder. Ce qui fait qu'on a des gens qui veulent acheter, mais qui ne peuvent pas acheter, peu importe le taux d'usure en fait. Mmh. Et puis, il y a un autre sujet sur la frilosité des banques, il faut le dire, il y a encore des banques, et ça c'est une réalité dont témoignent quotidiennement les courtiers sur notre antenne, il y a encore des banques qui refusent de prêter, qui ne veulent pas prêter dans ces conditions, c'est une réalité, et puis qui sont particulièrement frileuse, compte tenu justement de l'orientation des prix. Car, encore une fois, les prix commencent certes à baisser, mais ils n'ont pas fini de baisser. Et donc, forcément, elles sont particulièrement frileuses à l'idée de prêter à quelqu'un qui va acheter un bien immobilier qui potentiellement va être dévalorisé dans les prochains mois, dans les prochaines années, et donc avec un investissement à perte pour tous ceux qui veulent devenir propriétaires aujourd'hui. Donc, encore une fois, oui, c'est une bonne nouvelle, le taux d'usure remonte, les taux d'intérêt augmentent, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on est dans une configuration où c'est de plus en plus compliqué, il faut le dire, de trouver et d'avoir une banque qui accepte de vous prêter de l'argent. On rappelle aujourd'hui, c'est sine qua non d'avoir de l'apport personnel et tout pareil que la fameuse épargne résiduelle, équivalente quand même à quasiment un an de mensualité.
C'est quand on fait toute l'addition que ça...
Et ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les primo-accédants sont quand même pas les plus favorisés. Les investisseurs, compte tenu de leur taux d'endettement, non plus. Donc on est quand même sur un profil d'emprunteur et sur une quantité d'emprunteurs qui se réduit à mesure qu'on avance dans le temps. Donc voilà, encore une fois, n'oubliez pas, si vous voulez un crédit, il vous faut de l'apport. Et une fois que vous aurez fourni l'apport, il vous faudra cette fameuse épargne résiduelle. Et ce n'est pas rien. Donc il faut mettre de l'argent de côté aujourd'hui.
Marie Cœur de Roi, donc, sur ces questions toujours de taux d'usure. On accueille maintenant Frédéric Puzin. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Le patron de Corum, les SCPI, puisque c'est de ça dont on cause ensemble, affichent toujours des bonnes performances. Pourtant, le contexte qu'on commande jour après jour n'est pas tout le temps très très joyeux, et certains autres produits d'ailleurs en souffrent. C'est effectivement, la SCPI pour le moment s'en sort bien.
Oui, 2022 c'est pas mal, hein, 4,53 par rapport à 4,45 en 2021, ça fait un peu plus de 2% de progression de la performance, donc c'est plutôt correct. Après, on est quand même en dessous de l'inflation, hein, l'inflation est à 6, donc ça fait un petit écart, mais on a aussi des revenus réguliers dans la SCPI, donc tout ça ça fait un équilibre.
Et du coup, c'est quoi la cible où vous dites, tiens, celle-là, elle est bien, faut la prendre, ou celle-là, je la laisse de côté?
Alors, en fait, il faut peut-être juste revenir à ce qu'est l'inflation pour la SCPI. En gros, l'inflation, vous avez 100 euros, vous le placez dans votre SCPI à 4,5, au bout d'un an, vous avez 104,5. Si vous aviez dédié ça à acheter un bien qui faisait 100 au 1er janvier, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, avec une inflation à 6, ben vos 104,5 ne vous permettent pas d'acheter ce qui va vous coûter 106. Donc ça, c'est le...
Vous avez plus d'argent qu'avant, mais vous pouvez acheter moins de choses.
Ben exactement. Ça, c'est le problème de fond de l'inflation. Enfin, je fais découvrir ça à personne. Et le sujet de la SCPI, c'est que il faut qu'elle arrive à suivre le mouvement. Alors, pour les SCPI existantes...
Donc, en gros, il faut qu'elle rapporte plus de 6%.
Ben, il faut qu'elle arrive à faire 6%. Alors, pour les SCPI existantes, on va dire la moyenne à 4,50, il faudrait qu'elles arrivent à faire 6%. Alors, pour faire 6%, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a une qui est assez simple, qui est arithmétique et assez brutale. Si on baissait les prix de part de l'ordre de 20%, on arriverait à faire 6%. En gros, le rendement d'une SCPI, enfin le rendement immobilier, hein, c'est un dénominateur sur un numérateur. Le numérateur, c'est le loyer. Le dénominateur, c'est le prix d'achat. Donc, un moyen d'améliorer le rendement, vous baissez le prix d'achat. Mais oui, pour la SCPI, ça veut dire baisser le prix de part. Je ne vois pas les gérants utiliser cet artifice pour augmenter artificiellement les rendements. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? L'autre façon de faire, c'est d'augmenter les loyers. Ah, voilà, mon cher Cédric, vous avez tout compris. Alors, augmenter les loyers, il y a de l'inflation. Donc ça, c'est un truc génial. Les loyers sont indexés, c'est quand même un grand point fort des SCPI, de l'investissement immobilier professionnel en général.
Mais ils ne sont pas indexés au même niveau que l'inflation.
Ça va dépendre. Alors, je vais vous dire, ça va dépendre des pays. Hein, la France est un sujet, les autres pays européens en sont un autre. Et vous allez voir qu'il y a un petit truc qui s'articule autour de cette différence entre les pays. Mais vous voyez, augmenter même les loyers de 6%, ça ne va pas faire passer les rendements de 4,5% à 6%. Pourquoi ? Parce que vous allez faire une augmentation de 6% sur votre loyer qui est de 4,5%. Donc en gros, vous allez augmenter, allez, pour jargonner, de 15 points de base. Vous allez peut-être le faire passer à 4,70. Mais vous êtes très loin des 6. Il faut augmenter les loyers 30%. Donc là, vous voyez que certaines personnes ne vont pas être d'accord.
Bon, alors on fait comment pour faire du 6 en SCPI ?
L'autre façon d'y arriver, ça serait que les SCPI existantes augmentent, doublent leur capitalisation. Et par contre, par exemple, si aujourd'hui une SCPI qui fait 1 milliard arrivait à convaincre ses épargnants de lui amener 1 milliard supplémentaire d'épargne, qu'elle investisse à 7,5, là, en moyenne, on arriverait à faire du 6. Ah. Donc là, c'est faisable, mais il va falloir réussir à convaincre les gens.
Ouais, et surtout que, enfin, je suis désolé, hein, mais pendant longtemps, on disait, ouais, l'immobilier, c'est vachement bien, parce que le livret A, il est à 0 et des pépettes et tout ça.
Il est à 3.
Bah là, il est à 3, il va peut-être passer à 4, hein, on sait jamais au mois d'août. Comment on arrive à convaincre? Parce que même si, effectivement, l'avantage de la SCPI, c'est quand même que j'ai pas à m'embêter avec la gestion, etc., on est bien d'accord. Enfin, pour autant, moi, le livret A à 3% où j'ai vraiment rien à faire, je prends mon application et je mets mon argent dessus. Enfin, surtout que l'idée pour les SCPI, c'est quand même de conquérir typiquement des nouveaux profils, c'est-à-dire pas des gens qui sont riches à milliards et qui ont d'autres véhicules, ceux qui peuvent justement investir quelques milliers d'euros, etc. Est-ce que vous pensez pas que là aujourd'hui c'est difficile de convaincre justement? Vous vouliez les convaincre les gens, mais.
Alors oui, c'est clair que ça va être compliqué quand le livret est à 3. Alors le livret, il y a une petite limite, hein, c'est le maximum d'épargne qu'on peut mettre sur son livret. La SCPI, il n'y a pas de limite.
C'est pour ça que j'ai précisé, pas ceux qui ont beaucoup d'âge.
Mais vous avez raison. Alors. Il y a quand même une solution qui serait de créer de nouvelles SCPI qui elle
c'est ça, c'est pas s'embarrasser du stock.
Exactement, nous créer de nouvelles SCPI qui partiraient avec
de zéro après
les conditions de marché plus intéressantes. Et là, faire du 6 aujourd'hui, c'est tout à fait réaliste. Pour autant qu'on respecte un minimum de choses, c'est-à-dire qu'on ne soit pas trop spécialisé, qu'on aille chercher des opportunités, enfin qu'on soit un peu mobile sur le marché et pas s'empaler sur ce que tout le monde veut acheter encore à cet instant. Et puis il y a quand même une solution. Alors la SCPI qui vient de se créer, elle est géniale. Parce qu'elle peut permettre de créer aussi ce qu'on appelle de la surperformance. Je m'explique. Elle va démarrer toute petite. Si elle arrive à collecter rapidement de l'argent et qu'elle investit très rapidement, elle va peut-être même pouvoir faire mieux que ce que donne son rendement immobilier. Mmh. Hein, ça s'appelle la relution. Mais il y a une limite, c'est que cette relution, ça peut marcher à l'envers. C'est-à-dire que si le gérant, l'argent des épargnants n'arrive pas assez rapidement, qu'il n'a pas les moyens d'acheter des immeubles assez rapidement, eh bien donc qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de faire les 6, bah, il va plutôt faire 2, 3, 4, parce que c'est ce qu'on appelle la dilution. L'argent n'est pas investi assez vite, donc il n'y a pas de loyer en face des épargnants.
Bon, vous nous avez dit 4,5 de moyenne.
Oui.
On va pas refaire un petit cours de maths appliquées, mais si on est à 4,5 de moyenne, c'est qu'il y en a qui font moins bien, mais qu'il y en a qui doivent faire mieux, et il y en a donc peut-être aujourd'hui des déjà créés qui font plus de 6.
Ben, votre sagacité me touche, mon cher Cédric.
Ça va, je ne vous dérange pas trop tous les deux.
Oui, alors il y a des SCPI.
Comment elles font ?
Non, il y a des SCPI qui font plus de 5, même certaines 6, voire plus de 6. Et là, je pense que c'est un historique. C'est-à-dire que plus ces SCPI vont être anciennes, et qu'elles vont démontrer leur capacité à faire 6 ou plus de 6, c'est qu'elles ont sans doute mis en place une stratégie et une certaine discipline de gestion. Donc cette discipline, c'est d'abord s'être concentré sur un taux de rendement et pas avoir à compter une histoire immobilière. Je vous donne un exemple, on peut dire voilà, je vais faire une SCPI de santé. Ça me ramène combien ? Donc le gérant, il a un tropisme, c'est qu'il investit dans la santé. Et le problème peut être parallèle, mais qui n'est pas sa préoccupation première, c'est d'investir dans la santé. Après, le rendement de la SCPI est un autre sujet. Si vous avez un tropisme qui consiste à dire « moi, je veux que ma SCPI fasse 5, elle fasse 6 ou elle fasse 7 », vous vous concentrez à faire du 6 ou 7, donc vous donnez un garde-fou dans la gestion qui vous contraint en termes d'investissement et d'abord en termes de collecte que vous allez accepter les épargnants. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, « je vais faire du 6 », vous ne pouvez pas investir dans des immeubles qui fassent un rendement inférieur à 6, et si vous ne trouvez pas ces immeubles, vous allez arrêter la collecte. Donc c'est un peu cette discipline de gestion.
Donc le truc, c'est de choisir sa cible, quoi. C'est-à-dire que soit on fait de la santé, du commerce, du logement,
on a une fibre.
Soit on fait du rendement et à ce moment-là, bah, on raconte pas d'histoire, entre guillemets, d'immobilier, comme vous dites, et on va piocher un coup dans de la santé, un coup dans du commercial, un coup dans de l'entrepôt, pour tenir son rendement, c'est
oui,
ça?
Je crois, mon cher Cédric, ça fait 8 ans que vous m'invitez, je ne crois pas, chaque fois que vous m'ayez invité, que je vous ai tenu un autre langage. C'est-à-dire qu'on fait de l'épargne, pourquoi? Pour que ça ramène. Après, il peut y avoir des thématiques. Les thématiques, au bout du compte, on reboucle avec le marketing des gérants ou des banques, des assurances qui veulent vous vendre une idée. Mais au bout du compte, on épargne pourquoi?
C'est moche que vous dites, je suis
désolé. Oui, je sais, mais on épargne pour avoir une rentabilité, une performance. Et derrière, effectivement, on peut avoir des convictions. En matière de SCPI, malheureusement, ce marketing est un peu toxique parce qu'il va vous contraindre à acheter très cher à un moment une histoire un peu commune pour tout le monde. La santé à l'époque du Covid, c'était juste évident. Il faut investir dans l'immobilier de santé. Le problème, c'est que vous avez quelque part, vous créez une inflation parce qu'il y a des montagnes d'argent qui arrivent dans ce secteur. Et donc, vous participez à la course de l'échalote. Donc, vous achetez cher, les rendements baissent. Et le problème, c'est quand l'inflation, ben, elle est à 6 aujourd'hui, ouais, ça va être très.
Les produits de qualité, ils ne sont pas non plus.
Non.
Nombreux pour.
Mais il faut bien comprendre que le marché immobilier est un marché assez petit par rapport notamment au marché boursier. Et alors, d'autant plus petit que vous dites, bah, moi j'investis qu'en France, j'investis qu'en Allemagne. Voyons, ça si vous donnez des contraintes géographiques. Donc il y a quand même une prime aux SCPI qui sont hyper diversifiés, avant tout qui se donnent un objectif de performance, et c'est ce que cette crise révèle.
Tout le monde essaye aussi d'avoir le petit coup d'avance. Enfin, on voyait en discutant avec Irina Topasseri tout à l'heure chez AXA que voilà, on est en train de toucher probablement au taux terminal, et ça y est, tout le monde spécule déjà sur savoir quand est-ce que la Fed va baisser ses taux maintenant. Ouais, bon, donc du coup, vous, qu'est-ce que vous pouvez passer comme perspective à l'épargnant qui nous écoute ce matin, qui se dit oh, ok, bon, bah moi j'en ai une qui était à 5, quelque chose, finalement je l'ai pas trop mal choisi, tout ci, tout ça. Et devant, ben, ouais. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, d'abord, je trouve que depuis 18 mois, mais c'est un peu une généralité, on entend quand même tout et son contraire depuis 18 mois. Hein. Il y a 6 mois, l'inflation, on était au bout. Hein. Les taux allaient baisser. Bon, aujourd'hui, maintenant, on est peut-être dans une inflation structurelle. Je pense que il faut conserver les SCPI qu'on a dans son portefeuille, parce que l'immobilier, c'est du long terme. Alors imaginons que l'inflation effectivement rebaisse dans un an, dans deux ans, enfin dans quelques trimestres. C'est pas un drame d'avoir un petit trou d'air par rapport à l'inflation dès lors que vous êtes investisseur sur 10 ou 15 ans, et globalement votre investissement va vous donner satisfaction. Par contre, moi, ma recommandation, c'est que vos nouveaux placements, si vous voulez faire l'immobilier, notamment des SCPI, allez chercher des produits qui savent aujourd'hui matcher l'inflation, parce que si l'aventure, cette inflation durait 5-10 ans, il faudrait quand même bien faire évoluer son portefeuille, aller chercher au moins l'inflation en termes de performance. Voilà ma recommandation.
Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Puzin et Corom qui nous accompagnaient ce matin. À demain Marie.
À demain Cédric.
On se retrouvera pour le Club Immo. Nous, dans un instant, ce sont nos traders qui lisent les marchés. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Grâce à BFM Patrimoine, vous disposez, vous aussi, chaque matin, pour investir d'une petite note technique. C'est celle que vous offrent nos deux traders du jour, Jean-Louis Cussac et Romain Daubry. Bonjour à tous les deux et merci d'être au rendez-vous de ce match des traders. Romain, bonjour. Depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Romain, on commence avec vous. Que dire de ce marché qui, pour le moment, semble vouloir tenir les 7100 points?
Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Oui, il tient les 7100 points. Il y a en fait pour l'instant un marché qui est plutôt sans tendance. On a depuis l'échéance des marchés dérivés du mois de mars, qui s'est tenu le 17 mars, peu d'intérêt en fait. On n'a pas reconstruit. On a en moyenne, on va dire, une quinzaine de pourcents de la position ouverte sur les marchés dérivés, que ce soit sur le S&P, sur l'Eurostoxx, notamment sur le CAC 40, c'est un peu moins flagrant, qui n'a pas été reconduite, pas réouverte, et depuis, pas beaucoup d'intérêt. On l'a vu hier au cours de la séance de progression, que ce soit sur l'Eurostoxx ou le CAC 40, on a progressé de un peu moins d'1% sur les deux indices, et le nombre de contrats futurs a diminué d'un peu plus de 3%. Ça veut dire pas de soutien dans la hausse, ça veut dire qu'aussi, dans les jours précédents, il n'y avait pas eu de pression baissière, un tout petit peu sur le CAC 40, mais c'est plutôt contré assez rapidement, et c'est plutôt de la spéculation. Donc on s'achemine manifestement vers un scénario de trading range qu'on a bien identifié sur le CAC 40. Alors un trading range solide avec un biais plutôt haussier, puisque les portefeuilles sont et restent couverts toujours, et même pas mal sur l'échéance en cours, pas mal sur les options sur l'action américaine, toujours. Donc trading range pour nous, 6000, la borne basse c'est 6972, 6996. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, il n'y a pas de déclenchement d'alerte. La borne haute, c'est la zone 7157-7163 qu'on a vendue ce matin. Et la médiane du range, elle se situe à 7086. Donc, on va avoir un biais plus ou moins haussier tant qu'on est au-dessus, ou baissier si on passe en dessous, avec un support majeur qu'on va surveiller qui est à 7042 dans la zone et voir la réaction autour de ça. On reste constructif quand même sur le marché globalement parce que c'est plutôt ce qu'on considère nous comme une période d'accumulation pour des mains fortes dont on le rappelle, elle s'était fait coincer dans le mouvement de hausse, avait débouclé pas mal de shorts il y a un mois et demi de ça, et donc peut-être cherche des points d'intérêt et des points d'entrée. Et on voit que ça accumule sur pas mal de titres, pas mal de valeurs globalement à chaque repli. Donc on paye pas les points hauts, mais on reste assez solide et pour l'instant il n'y a pas de décrochage, pas d'accélération baissière du tout.
Voilà le regard de Romain Dobré depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, votre sentiment juste au-dessus des 7100?
La lecture n'est pas très palpitante ce matin, Cédric. 450 millions échangés. Bon, vous me direz, parfois le temps change rapidement sur les marchés, mais là, vraiment, ça bouge pas beaucoup. En fait, on est entre les mêmes limites depuis quelques jours. Parfois, on en est sorti un petit peu, mais on y est revenu, etc. Vous voyez, donc, il y a beaucoup d'interrogations, c'est toujours la même chose. Ce matin, bon, on a Total qui reprend 2,5%, elle pèse 8% du CAC. Évidemment, ça fait du bien. Les bancaires reviennent un petit peu dans le haut de la zone de ces trois dernières séances, mais le haut de la zone, il est quand même assez bas. Donc, il se passe pas grand-chose. Elle peine quand même à convaincre. Et le secteur fait toujours l'objet d'énormément de déclarations. Alors, très rassurantes, hein, évidemment, en règle générale. On dit que là, allez, c'est stable. On vante la stabilité du système bancaire européen. Tout va bien, etc. Oui, le problème, c'est que si un collatéral ne paye pas, on a beau être une bonne banque, eh bien, on aura des soucis. Donc, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. On le voit sur la volatilité implicite à 17,3. C'est à peu près les mêmes niveaux qu'hier. On est dans la zone haute, donc. Oui, la vente, c'est vers 7158, 68. Voilà, c'était la zone de ce matin. L'achat, c'était... alors moi, j'ai racheté vers 23, mais on peut tenter 7123, mais on pouvait même tenter d'aller plus bas. Pourquoi pas retourner sur la zone basse d'hier. C'est tout à fait envisageable. Le SP500, lui, fait aussi du surplace. Donc, si vous voulez, il n'y a rien qui permet de se faire une idée forte sur la direction que pourrait prendre ce marché. Par contre, c'est vrai que l'euro-dollar, lui, il remonte un peu, 1,08-20-17, là. Il est pas mal, parce que, en fait, si vous voulez, maintenant qu'on considère que du côté bancaire, il faut oublier un petit peu, la BCE reprend un discours offensif. Hein, il y a pas mal de membres de la BCE qui reprennent des discours un peu offensifs, faut remonter les taux, l'inflation est trop élevée. Donc, le consensus, il est à peu près à 0,25 sur la prochaine hausse des taux, mais vous voyez, alors voilà, ça soutient un petit peu l'euro à court terme parce que il y a des réactions de ce côté-là, mais voilà, le reste non, c'est vraiment très très calme, neutralité totale. Et pour l'instant, il faudrait trouver un catalyseur pour que ça sorte vers le haut. On a beaucoup de mal. Ça sorte vers le bas, bah, évidemment, hein, une mauvaise nouvelle sur les bancaires, ça peut amener des ventes assez rapides. En fait, très algorithmiques, parce qu'on peut dire que globalement, les investisseurs ne réagissent pas beaucoup, mais ils vont vers la qualité. On voit en fait qu'il y a plusieurs marchés. Hein. Le marché des très belles valeurs comme LVMH, et évidemment celle-ci c'est très très particulier, et beaucoup d'autres valeurs qui se font massacrer comme les immobiliers, les valeurs, les bancaires, bon, qui s'en sont pris plein la tête aussi ces derniers temps, mais aussi d'autres valeurs qui sont les casinos, tout ce qui est un peu spéculatif pour lequel il peut y avoir une opération un jour ou l'autre, mais il y a beaucoup de valeurs, Ubisoft, tous ces valeurs-là, ils n'en veulent pas et on voit leur mauvaise performance boursière.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, et Romain Dobré depuis Bourse Direct étaient nos deux traders du jour. Romain, on se retrouve tout à l'heure. Hein, vous suivez pour nous la séance du jour et on se donne rendez-vous à 11h30.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
C'est Nicolas Dose que l'on retrouve pour la polémique comme chaque jour. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Fini les ventes de voitures essence ou diesel en 2035 en Europe. Les 27 signent aujourd'hui définitivement le texte. Mais il y a un petit mais, c'est ça ?
Il y a un énorme mais. Plus d'essence, plus de diesel, mais les Allemands ont gagné. Les Allemands ont gagné, sans la signature des Allemands, il n'y avait plus de texte du tout. Et donc les Allemands voulaient impérativement qu'on autorise encore les voitures à moteur thermique lorsqu'elles fonctionnent avec des e-carburants. Bruxelles a accepté. Alors, il y a une petite histoire pour éviter un marathon législatif. Le texte initial reste en l'état. On n'inscrit pas les e-carburants dans le texte initial, mais il y aura un acte délégué, comme on dit, qui va s'ajouter d'ici quelques semaines, quelques mois, en inscrivant ce qu'on va appeler l'exception allemande.
Qu'est-ce qu'on appelle des e-carburants ?
Eh bien, c'est une merveille d'ingénieur, le e-carburant. On parle de e-fuel, on parle d'électrocarburant. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole, c'est une manipulation qui est réalisée en laboratoire où on va produire un carburant liquide à partir de l'électrolyse de l'eau. Et c'est une combinaison de CO2 et d'hydrogène vert. Et alors, comme tout ça doit être vert, le CO2 va être capté dans l'atmosphère, ou pour en avoir plus de densité, on va le capter carrément à l'émission industrielle, à la sortie d'une cheminée d'usine, par exemple. Et puis, on va fabriquer de l'hydrogène vert, ce qui veut dire qu'on va fabriquer de l'hydrogène, non pas avec des produits fossiles, ça c'est l'hydrogène gris, mais avec des énergies renouvelables. Et donc, le tour est joué. Vous avez votre moteur thermique qui, donc, thermique, il y a de la combustion. Donc, évidemment, lorsqu'il y a de la combustion, il y a une émission de carbone. Donc évidemment, votre moteur, il va produire du CO2 à la combustion. Mais comme il aura absorbé du CO2 à la fabrication, ce qu'il a absorbé à la fabrication annule... Voilà, l'empreinte carbone est neutre, parce que ce qui a été absorbé à la fabrication du e-carburant, effectivement, va produire du CO2 à la combustion, mais les deux réunis égale zéro. Donc égale équation nulle, empreinte carbone neutre. Et donc, on peut même se dire, mais c'est révolutionnaire, cette histoire.
C'est quoi ? C'est l'essence du futur totalement propre ?
Alors, voilà, c'est là où les choses peuvent se gâter. D'abord, vous avez évidemment des opposants au e-carburant qui admettent le bilan carbone très bon. Mais ils disent, et ils ont raison, le problème, c'est qu'on trouve avec ces moteurs thermiques d'autres bons vieux polluants bien connus que l'on voudrait éviter, comme les particules fines ou le dioxyde de carbone. Raison d'ailleurs pour laquelle il y a de grandes chances que les moteurs thermiques à e-carburant ne soient pas, par exemple, plein de mie dans les ZFE en centre-ville.
Ah oui.
Parce que d'accord, il n'y a peut-être pas de carbone, mais il y a les autres pollutions habituelles des moteurs thermiques. Et puis alors, ce petit miracle, des carburants de synthèse, il a aussi il pose un gros problème, c'est que ça demande énormément, d'abord ça demande des coûts de captation de CO2, et puis ça demande énormément d'électricité pour produire de l'hydrogène vert. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est encore beaucoup trop cher. Puisqu'on avoisine, en fonction de la quantité de carbone qu'on aura pu réussir à capter, on va avoisiner les 5 euros à peu près du litre. Et on accuse déjà les e-carburants d'être les carburants des riches. D'ailleurs, les principaux défenseurs des e-carburants, ils s'appellent qui ? Porsche et Ferrari.
Oui.
Ils ont quand même des très belles mécaniques.
Et Porsche, notamment, a fait un gros investissement, je crois, en Patagonie ou autre, pour travailler sur ces e-fuels.
Alors, c'est vrai que ce sont des marques mythiques qui ont aujourd'hui des technologies thermiques qui sont des bijoux absolus et qu'ils cherchent à conserver. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous aviez l'Italie qui s'était opposée aussi à la date de 2030. Donc on parle du carburant des riches, quand c'est comme ça, c'est mal paré. Le commissariat à l'énergie atomique, lui, dit ce serait peut-être la solution pour les navires et les avions. Si le parc automobile peut pas se le payer, peut-être que l'aviation et le transport maritime pourra se le payer. Pourquoi pas ? Puis il y a un autre problème, c'est que les capacités de production de masse, on les a pas pour l'instant aujourd'hui. Et puis en plus, sur le prix, vous n'avez pas d'économie d'échelle. C'est pas parce que vous en faites une quantité astronomique que ça baisse le prix au litre. Donc voilà, voilà où nous en sommes. En tout cas, les Allemands, pour l'instant, ont gagné.
Comme ils ont gagné sur le nucléaire, pour le moment.
Ah, on va voir comment ça... L'histoire du nucléaire, on va voir comment ça se termine. Ça fait des mois que ça dure.
Allez, Nicolas Dose et la polémique du jour, ça nous fera d'autres polémiques. Dans un instant, on continue à vous donner un max de conseils.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on commence en accueillant Benoît Lombard. Bonjour Benoît.
Bonjour Cédric.
Pour le groupe La Place, à la une avec vous ce matin, la capitalisation, concept essentiel en gestion de patrimoine. On commence par définir le mot parce qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses finalement.
Oui, la capitalisation c'est très simple, ça s'oppose j'allais dire à la distribution. Quand vous capitalisez les produits qui sont générés par un investissement... Et dans les produits, il y a quoi ? Il y a les revenus que vous pourriez avoir. Les revenus de capital mobilier, le coupon, le dividende et les plus-values. Et eux-mêmes restent insérés au sein du véhicule qui capitalise et qui produit lui-même des intérêts. C'est l'anatosisme, la fameuse loi des intérêts composés qu'on retrouve dans nombre de produits dont on aura l'occasion de reparler.
Alors, vous nous parlez de véhicules. Donc, ce sont des véhicules d'investissement. Quels sont ceux qui permettent justement de capitaliser?
Mais il y a des unions français qu'ils connaissent. C'est l'assurance vie.
Eh oui.
L'assurance vie capitalise. C'est le PEA, plus de 6 millions de souscripteurs. Et puis, c'est aussi le PER, je rappelle, qui a été lancé en octobre 2019. Et il y a aussi, là encore, plus de 6 millions de souscripteurs. Qu'est-ce que sont ces produits? Ces produits, vous investissez une somme d'argent, et puis cette somme d'argent, vous la logez dans des...
Dans des enveloppes, comme on dit.
C'est dans cette enveloppe, mais dans des supports d'investissement, des OPCVM, des SICAV, des SCPI aussi. Donc tout un tas de véhicules de fonds garantis, bien évidemment. Et puis, vous n'y touchez pas, et donc vous ne touchez pas d'impôts. Ça, c'est la magie. Hein, j'allais dire, pas de revenus, pas d'impôts. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième point fondamental de ces enveloppes, le point commun, si je puis dire, c'est le fait que les arbitrages, la rotation de l'épargne au sein du véhicule, elle-même ne génère pas d'impôt. Le seul moment où il y a de l'impôt, c'est le moment où on retire son argent. PER à la retraite, assurance vie PEA, au moment où le souscripteur décide de ponctionner une partie de son épargne qui a capitalisé.
Bon, on est au cœur de la politique patrimoniale, mais on est au cœur aussi, et ça va souvent de pair, de la fiscalité, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on a une fiscalité... comment on pourrait dire, choisi et non pas subi?
Exactement. Vous, si vous maîtrisez le moment où vous percevez les revenus, vous maîtrisez l'impôt qui est afférent. Auparavant, dans la distribution, vous aviez 100, et supposons qu'on ait un coupon de 5, hein, sur une obligation, on n'est pas encore à 5, hein, mais peut-être qu'on y verra un jour. Donc, un coupon de 5, eh bien, ces 5 supportent l'impôt. Aujourd'hui, formidable, la fiscalité à l'endroit, la flat tax, payez 30%, et il vous reste quoi? Bah, 3,5 que vous replacez, donc et vous passez donc par la case impôt. Si vous laissez le véhicule qui capitalise et que vous êtes, par exemple, dans l'assurance vie, et que vous avez, là encore, 5 de gains, vous avez 105 dans le véhicule, et puis vous décidez de retirer, là aussi, encore, ces 5. Eh bien, l'assiette de taxation, elle repose, comme par magie, pour l'assurance vie, c'est l'article 125 OA du Code général des impôts, par une formule où on proratise la quote-part de capital qui est réputée rachetée et la quote-part d'intérêt. En l'occurrence, là, sur 5 de rachat, on aura un impôt, si je ne m'abuse, d'imposition, si je ne m'abuse, de 0,5. Et là encore, à la flat tax. Donc on voit que non seulement la magie, elle est de conserver les revenus au sein du véhicule, mais que
et si on doit faire un rachat,
calcul de l'assiette en cas de retrait est lui-même favorable. Et mieux encore, si vous avez moins de 150 000 euros dans le véhicule assurantiel, donc c'est quand même la majorité des 18 millions d'assurés, eh bien, vous avez, au bout de 8 ans, non pas la flat tax, mais un petit bonus, puisque au lieu d'être à 30, on est à 24,7, bon, tout confondu,
mais
d'impôts.
Là, entre guillemets, on n'a parlé que de l'IR.
On n'a parlé que d'IR. Il y a aussi...
Il y a d'autres impôts qui sont, entre guillemets...
Il y a d'autres impôts, puis il y a d'autres véhicules aussi, hein, on pourra en parler, mais assez rapidement sur les autres impôts. Il y a l'IFI. Hein. Vous savez que, depuis 2012, hein, la Cour suprême a estimé que vous ne pouvez pas payer de plus de 75% de revenus. Et l'équation, c'est impôt sur revenus, IFI plus prélèvements sociaux, doivent être inférieurs à 75% des revenus. Si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas d'IFI. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important. Et puis, juste un petit point. On a parlé du 757B du Code général des impôts. C'est quoi cet article? C'est que quand vous avez plus de 70 ans et que vous versez de l'argent sur l'assurance vie, vous bénéficiez de 30 500 d'exonération, donc d'abattement complémentaire, en plus de celui qui existe dans le 990i, lorsque vous avez moins de 70 ans. Mais mieux encore, les intérêts. Donc vous mettez 30 500, il n'y a pas d'impôt. Et puis vous décédez, malheureusement, 20 ans après. Votre contrat, il vaut 100 500 euros. Eh bien, les 70 000 euros d'intérêts capitalisés échappent aussi aux droits de succession. Il ne faut jamais l'oublier.
On nous dit aussi, de temps en temps, qu'on peut passer par une société.
Une société. Alors, on a parlé des véhicules universels, si je puis dire, qui sont pour des investissements financiers. Et puis, vous avez des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. Et c'est quoi l'impôt sur les sociétés? C'est l'écran fiscal. Donc, vous avez, par le prisme de cette fiscalité, un écran qui fait que la société elle-même procède à des investissements, tant vous avez des résultats à la fin d'année, hein, des bénéfices. Et je rappelle que nous avons aujourd'hui deux éléments extrêmement favorables depuis cette année. La première chose, c'est qu'on a un taux d'IS à 25%. On était à 33% il y a quelques années, rappelez-vous. Donc, et puis, nous avons aussi un taux d'IS réduit à 40 500 euros. Je vais vérifier mes notes. 42 500 euros de résultat. Il n'y a que 15% d'impôt. Ce qui veut donc dire que quand vous avez 100 dans un véhicule, une société à l'IS, et que vous avez 15 d'impôt sur le résultat, et je ne parle pas de toutes les charges qui peuvent être mises à côté, bien évidemment. Et donc, il reste 85. Là-dessus, vous décidez de distribuer ou pas. Mais si vous décidez de distribuer, vous avez en réalité un impôt, in fine, qui est de 41,5%. tout compris. Donc on a quand même une fiscalité extrêmement favorable. Je rappelle que la tranche marginale d'impôt sur le revenu, elle est à 45%, plus la contribution exceptionnelle sur le revenu. Donc on est en deçà. Et vous maîtrisez et vous décidez. Vous pouvez aussi, au sein de véhicules société à l'IS, peut-être une SCI, hein, une SCI peut détenir des actifs immobiliers, donc assujetti à l'impôt sur les sociétés, mais ça peut être une SA, une SAS, bref, toutes sortes d'instruments qui permettent de générer du business, mais aussi de réaliser des investissements dès l'instant où c'est un holding, une société financière. Et cette société financière permet justement de maîtriser la perception. En bon. Plus, bien sûr, des autres avantages.
Si donc, dans nos placements, on a de la capitalisation à tout va, qui peuvent nous servir pour la retraite. Non, mais aujourd'hui, c'est presque un gros mot de parler de capitalisation
aujourd'hui, sur la retraite. J'entends bien souvent dire qu'il n'y a que de la retraite par distribution. Je voudrais rappeler que la loi Pacte, effective, depuis que le PER, le plan d'épargne retraite, le véhicule universel, a été lancé le 1er octobre 2019, eh bien, vous avez de la retraite par capitalisation. Et cette retraite par capitalisation, en l'espace de un peu plus de 3 ans, a fait le bonheur de plus de 6 millions de souscripteurs. Donc il y a 6 millions de Français qui ont de la retraite par capitalisation. Et ce véhicule universel, il s'applique aux fonctionnaires, aux professions libérales, aux salariés, et est passeportable si jamais demain on change de régime et qu'on devient, lorsqu'on est salarié, créateur d'entreprise, ou réciproquement, ou voire même fonctionnaire. Donc la capitalisation fonctionne à toutes les échelles. Cet instrument est un instrument moderne, qui est niché dans tous les véhicules d'investissement classiques, mais aussi dans des sociétés, des entités à l'IS, et je ne parle pas des avantages sur lesquels repose aussi, bien évidemment, en matière de transmission de titres gratuits, la dette qu'on peut mettre en face de l'actif qui est logé au sein de l'entité et réduit, bien évidemment, l'assiette taxable. Donc, c'est un instrument extrêmement utile, et je voudrais, ce jour, pointer tous les investisseurs, pour leur rappeler que ces investissements, c'est parce qu'ils capitalisent, ils bénéficient des avantages, ils sont trop souvent oubliés.
La capitalisation dans tous ses états avec Benoît Lombard. Merci Benoît.
Merci Cédric.
Le groupe Laplace qui nous accompagne très régulièrement. Un petit coup d'œil sur les marchés et on continue, tiens, à parler retraite.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Un petit marché qui, pour le moment, préserve les 7100 points. On est 5 petits points au-dessus, on gagne 0,39%. Ailleurs en Europe, la tendance est assez similaire. Les principaux arbitrages à la hausse concernent Total, AXA ou encore BNP Paribas. Et puis, du rouge sur Télépair, sur ST Micro ou encore sur Dassault. Du côté des devises, l'eurodoll est à 1,0815.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Jean-Philippe Dubosc est en duplex avec nous depuis toutsurmesfinances.com. Bonjour Jean-Philippe. Vous nous entendez Jean-Philippe ? Non, a priori, petit souci de liaison avec Jean-Philippe. On va essayer de rétablir ça assez rapidement. Du côté du CAC, hein, je vous le disais, on est en train de tester peut-être ces 7105 points. C'est pour le moment le plus bas niveau du jour. On avait grimpé tout à l'heure dans la première heure de cotation jusqu'à 7155. Du côté de l'Eurostock 50, eh bien, on grignote aussi un petit peu de terrain, plus 0,41%. On est à 4181 points pour cet indice européen et grosso modo c'est toute la côte parisienne qui est dans le vert ce matin. Petit bémol du côté d'Amsterdam avec une hausse de seulement 0,2%. Les principaux arbitrages se font, je vous le rappelais, sur le CAC 40 sur des sociétés comme Total qui contribuent pas mal à cette hausse de l'indice CAC 40, plus 2,32% à 53,34. Suit AXA à 27,28 plus 1,19%. Ou encore BNP Paribas à 52,39 plus 1,16%. Quelques baisses donc. Téléperf qui à 213,10 perd 2,02%. ST Micro à 44,99 moins 86 ou encore Dassault qui à 36,62 perd 1,05%. Du côté des valeurs du SRD, on peut signaler quelques belles performances comme Holot qui reprend 2,56% à 3,01 €. C'est Orpea qui ferme la marche, moins 7,55 à 1,94. L'eurodoll donc 1,0815.
BFM Patrimoine,
l'émission 100% placement sur BFM Business.
Jean-Philippe, vous nous entendez ?
Oui.
Ah, on vous a retrouvé. Jean-Philippe Dubosc, depuis toutsmesfinances.com, on connaît aujourd'hui donc une nouvelle journée de manifestation contre cette fameuse réforme des retraites. On rappelle que le texte a été adopté grâce au 49-3. Là, pour le moment, on attend le Conseil constitutionnel. En attendant, pensez-vous qu'Emmanuel Macron puisse revenir sur cette réforme ?
Alors on a du mal à le croire, hein, surtout quand on a vu le journal télévisé du 13h de mercredi dernier. Hein, il ne regrette rien. C'est compliqué en fait pour lui. Il s'est donné une image de réformateur. C'est compliqué pour lui de pas faire passer une réforme. D'autant que je vous rappelle qu'il a déjà pas pu faire passer sa réforme des retraites universelles par points de son premier quinquennat. Ça serait compliqué qu'il puisse pas passer en fait une deuxième réforme pour son second quinquennat. Et puis on va dire que pour être un président français, il faut avoir passé sa réforme des retraites. Hein, souvenez-vous que pour Chirac, il y a eu la loi Fillon de 2003, pour Sarkozy, il y a eu la loi Woerth de 2010, pour Hollande, il y a eu la loi Touraine de 2014. Il veut en fait la réforme du SOPT de 2023. Et puis surtout, ça serait un aveu de faiblesse, ça serait compliqué en fait de mener d'autres réformes s'il n'arrive pas à faire passer ce qu'il a appelé la mère des réformes. Mais comme vous l'avez dit, encore faut-il que le Conseil constitutionnel valide le texte.
Bon, justement, alors il a déjà donné une partie d'avis puisqu'il avait été saisi par la Première ministre, mais bon, est-ce qu'il y a un risque pour que le Conseil constitutionnel finalement s'en mêle ?
Oui. Alors c'est pour ça en fait que Elisabeth Borne a saisi le Conseil, c'est parce qu'il savait, elle savait que de toute façon l'opposition allait saisir les sages, et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Je vous rappelle que les députés de la NUPES, que les députés du RN et que les sénateurs socialistes, communistes et écologiques ont saisi le Conseil constitutionnel. Il y a plein de raisons en fait pour saisir le Conseil constitutionnel, pardon. Les raisons sont très nombreuses. La première, c'est le choix du véhicule législatif. Comme vous le savez, en fait, le gouvernement est passé par un budget rectificatif de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, en fait, depuis la réforme Sarkozy, le gouvernement ne peut utiliser qu'un seul 49-3, donc qui permet l'adoption d'un texte sans vote en mettant en responsabilité le gouvernement. Eh bien, avec un texte budgétaire, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Donc ça, c'est un sacré avantage. Mmh. L'autre avantage aussi, c'est que vous pouvez utiliser le fameux 47-1 qui permet de réduire le temps des débats, hein, à 20 jours pour l'Assemblée nationale, à 15 jours pour le Sénat. Pourquoi ? Parce qu'un budget rectificatif, normalement, comme son nom l'indique, c'est pour rectifier le budget initial. C'est parce que souvent, en fait, il y a un dérapage budgétaire et qu'il faut faire vite. Mmh. Or, première chose, non seulement, effectivement, une réforme des retraites, ça mérite largement un texte à part entière. Ensuite, là, il n'y a pas d'urgence financière. Le Conseil d'orientation des retraites a été très clair. Il n'y a pas de dérapage des dépenses de retraite. Ensuite, c'est un peu fort de café de faire un budget rectificatif, alors que le budget de la sécurité sociale, si j'arrive à le dire, a été adopté il y a à peine 4 mois. Ouais. Ensuite, il y a un autre souci aussi, c'est que c'est un budget rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Et d'ailleurs, la réforme devrait entrer en vigueur le 1er septembre prochain. Mais quand, par exemple, vous prenez la mesure phare, qui est le report de l'âge légal, eh bien, ça court jusqu'en 2030. Donc, on est bien au-delà de la seule année 2023. Et puis, outre le véhicule législatif, c'est la succession d'articles de la Constitution qui est utilisée. Encore une fois, tout ceci est légal, mais c'est l'accumulation en fait de ces expédients législatifs qui pose problème. Juste, on a parlé du 49-3, du 47-1, j'ai ma petite fiche parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu l'article 44 qui déclare irrécevable les amendements. Il y a eu l'article 38 du règlement du Sénat qui permettait de clôturer les débats. Il y a eu l'article 42 du règlement du Sénat qui a permis de limiter les prises de parole. Les articles 44-2, 44-3 du règlement qui ont permis de bloquer le vote du Sénat. Donc c'est aussi, voilà, c'est à la fois le véhicule législatif et les accumulations d'articles utilisés qui peuvent faire que le Conseil constitutionnel censure le texte, mais j'y crois pas vraiment, en fait.
Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh ben, en fait, certes, effectivement, le Conseil constitutionnel, c'est le garant de la loi fondamentale. Donc, c'est vrai qu'il juge de manière légale les textes, mais c'est compliqué pour lui de faire fi du contexte sociale et politique. Or, je vais pas vous faire un dessin. Je pense que c'est très très clair. Il y a tous les syndicats qui sont contre cette réforme. Il y a 70% de la population qui est contre cette réforme. On est à la 10e journée de mobilisation. Le Conseil constitutionnel, s'il censure intégralement le texte, ça veut dire qu'on aura fait tout ça pour rien. Ça veut dire que le gouvernement doit repartir de zéro, proposer un nouveau projet de loi. Et c'est vrai que ça va l'affaiblir, compte tenu du contexte explosif. Est-ce que le Conseil va prendre le risque de mettre davantage d'huile sur le feu? En fait, moi, ce que je pense, c'est que on va aller plutôt vers une censure partielle, parce que ce qui est sûr, c'est que le Conseil ne peut pas rester des bras ballants. Je veux dire, la pilule est trop grosse à avaler, donc ils ne peuvent pas ne rien faire. Mais ils peuvent seulement censurer en partie le texte, et notamment les cavaliers budgétaires. Ouais. Il y en a par exemple deux qu'on cite souvent, mais parce qu'ils sont énormes aussi. C'est l'index senior et les seniors. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça relève du Code du travail, ça ne relève pas du code de la sécurité sociale, ça n'a rien à faire dans une réforme des retraites. Et d'ailleurs, le gouvernement s'y attend, hein, pour tout vous dire. Et en fait, c'est pas très grave, parce que ça va donner lieu à un projet de loi ad hoc, à un projet de loi sur l'emploi des seniors. Donc, effectivement, je pense qu'il va y avoir une censure partielle. En revanche, moi, je m'inquiète un peu sur la mise en place de la réforme, si elle est définitivement adoptée. Je pense qu'il va y avoir du retard à l'allumage, comme on dit.
Bon, bah écoutez, on va suivre tout ça. Voilà. De toute façon, on ne manquera pas d'occasion d'en reparler, j'imagine.
Oui. D'autant que, c'était ce que je voulais dire, il y a quand même 105 décrets dans cette réforme. Moi, je suis quand même assez étonné, quand même. Personne n'en parle, mais c'est une petite réforme. Il n'y a qu'une vingtaine d'articles et 105 décrets pour des mesures qui sont importantes, hein, qui sont le recul de l'âge légal pour les fonctionnaires, qui sont la retraite anticipée pour carrière longue, le compte pénibilité, la retraite progressive, enfin des mesures très très importante. Le texte n'est pas du tout technique, il renvoie au décret, encore faut-il que ces décrets paraissent pour que les caisses de retraite les appliquent. Comme vous l'avez entendu, Emmanuel Macron parle d'une entrée en vigueur, maintenant pas pour le 1er septembre, mais pour la fin de l'année. Bon. Voilà.
À suivre donc, merci beaucoup Jean-Philippe Dubosc qui nous accompagne très régulièrement sur ces questions de retraite. Il est 11h, on est un tout petit peu en retard. Dans un instant, un détour sur l'actu, les marchés, et à suivre Regard Croisé. À tout de suite.